Est-ce que vous allez bien ce matin?
Oui.
Oh yes.
Et on est heureux d'apporter le message d'une manière différente aujourd'hui. Sophie et moi, on apporte le message à deux en couple parce qu'on va apporter un message justement qui parle des relations du couple et du mariage. Donc ça va être un message qu'on va voir un peu original, mais vous inquiétez pas, vous êtes bénis pareil.
Et on est heureux d'apporter ce message. Et on veut parler des relations aujourd'hui parce qu'on croit que c'est important pour Dieu. Quand on regarde à la Bible, la parole de Dieu, Dieu en parle de long en large, que ce soit au niveau de la famille, des amitiés, du couple. Pour Dieu, les relations ne sont pas secondaires. Et aujourd'hui, on va parler principalement du mariage parce qu'on croit que Dieu est l'auteur de l'amour et le créateur du mariage. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Alors, on est vraiment heureux de vous apporter ce message. Et si aujourd'hui, tu es ici et que tu es déjà marié, crois-moi que ce message va pouvoir t'encourager à donner encore ton meilleur au niveau de ta relation de couple. Et si tu n'es pas encore marié, mais que tu l'aspires à l'être, Dieu veut te préparer au mariage. Et le titre de notre message à tous les deux ce matin s'intitule « Pourquoi le mariage est si important ?»
Pourquoi le mariage est si important? Parce que on croit réellement, puis depuis des années qu'on est mariés, Sophie et moi, on a découvert dans la parole de Dieu, dans le ministère, on étudie les sujets, puis au plus on étudie ce que Dieu dit du couple, du mariage, des relations amoureuses, au plus on voit qu'il y a des clés, des promesses, une bénédiction qui est réservée au couple et au couple dans le mariage. Il y a vraiment quelque chose de fort. Malgré les immenses pressions et difficultés que les couples vivent aujourd'hui dans notre société en 2023, et on croit vraiment que, selon la parole de Dieu, on va regarder ce matin des principes, que Dieu veut réellement nous montrer que aujourd'hui, nous ne sommes pas des couples parfaits, mais nous devons chercher à être toujours en progression. Combien disent amen? Alors aujourd'hui, on veut vraiment regarder à combien le mariage est une belle chose et démystifier certaines choses, mais on va regarder ensemble à ce que la parole de Dieu dit du mariage. Ça fait maintenant, on va se présenter quelques minutes parce que vous nous connaissez en tant que prédicateur, vous entendez le message, mais là aujourd'hui on va présenter le couple parce qu'on va présenter, on va parler du couple. Ça fait 20 ans cette année qu'on est ensemble, Sophie et moi. C'est des dates faciles à retenir, ok, 20 ans, c'est les cheveux fleurons. Et on s'est connus à 16-17 ans, il y a une photo qui va arriver en 2003, on ressemblait à ça.
Attention à ceux qui rient en ce moment.
Oui, c'est ça, pourquoi vous
au pré-prod, ce matin, il y en a un qui disait, il voyait l'évolution de nos photos, puis il me regarde, puis il me dit juste, Dieu est bon. Donc, ouais. Je savais juste pas comment on devait le prendre, mais Dieu est bon.
Ouais,
amen.
Tout à fait. D'adolescents que nous étions, on s'est fréquentés 5 ans. Avant de se marier en 2008, le 28 juin 2008, je sais exactement la date, je sais même que c'est dans 17 jours que je vais fêter les 15 ans de mariage, on ressemblait à ça au mariage. En 2008, ça fait 15 ans cette année, on est passé de amis à amoureux, à fiancés, mariés, et aujourd'hui en 2023, on a 3 beaux enfants qui s'appellent Lenny, qui a 8 ans, qui est au centre, Jackson, qui a 5 ans dans quelques semaines, et le petit bébé qu'on attend pour le mois d'octobre, pour la première semaine, et on vous dévoile aujourd'hui que ce bébé va être...
Roulement de tambour, une fille!
Yeah! Alors, si vous avez des idées de prénoms, on est en train de chercher en ce moment, donc allez-y. Mais on parle de nous ce matin, on se présente, mais on aimerait un peu aussi savoir ce que vous pensez du couple, des relations, du mariage. Alors, sortez vos cellulaires, allez sur menti.com, comme vous vous l'a dit, mettez le code. On s'excuse pour nos amis brésiliens, parce qu'apparemment, en portugais, menti veut dire mensonge. Aujourd'hui, on prêche que la vérité, mais menti.com, vous êtes avec ce code-là, 13 85 58 57. Les réponses sont anonymes, mais c'est un petit quiz pour savoir ce que vous pensez du couple, des relations et du mariage. On va commencer juste avec une question test, Sophie.
Alors, comprenez-vous bien le fonctionnement du quiz? Oui, un peu. Aucune idée. Où suis-je? Il y en a qui sont peut-être perdus en ce moment.
Ouais, c'est ça. Il y a quand même du monde. Où
suis-je? La majorité nous suit quand même.
Ouais. Et même si tu ne sais pas où tu es quand même sur le bon site et tu as compris le principe. Donc, on voit le oui à 89%, c'est parfait. On peut passer à notre première question.
Selon vous, pour débuter une relation amoureuse, qui devrait faire le premier pas? L'homme, la femme ou pour les spirituels, aucun Dieu s'en charge?
Yeah. On en voit qui se concertent entre mari et femme. Non, fais-toi ta réponse. OK, on voit quand même que l'homme, 66%, 5% les femmes, ok, parfait, puis 29% des très spirituels, on verra, Dieu s'en charge. qui va faire le premier pas. Peut-être que Dieu est en train de te parler à travers nous. Fais le premier pas à l'espace café tantôt, à la terrasse la semaine prochaine. Mais en tout cas, on voit que c'est majoritairement l'homme. OK, deuxième question, chérie.
Lors de la première sortie au restaurant, qui doit payer la facture? L'homme?
Oh.
Oh là là, ça a l'air
ça
d'être...
Ça déjà.
Un l'homme de la femme ou chacun paye sa facture?
Ouais, on est en 2023. Est-ce que ça change un peu?
Nous, c'était qui, non?
Nous, c'était toi qui avais payé la première facture. Mais ce n'est pas grave. OK, waouh. Non,
oh,
c'était
oh, oh.
La question d'avant, juste avant. On revient. OK, lors de la première sortie au restaurant, qui doit payer la facture? On est quand même... Oh, waouh. Il n'y a aucune femme qui paye le resto en ce moment.
Bon.
Chacun sa facture un petit peu, mais on reste quand même... On veut la parité, mais pas jusque-là, OK?
C'est
clair. On est qualité pour... La troisième question, chérie.
Selon vous, quel est l'ingrédient le plus important dans un couple? La confiance, l'authenticité, l'humour ou le romantisme?
Mm-hmm. On voit. Oh oui, la confiance a pris tout de suite la confiance.
Ça pourrait être tout ça en même temps, mais on veut avoir
ouais.
votre avis. Tout,
l'authenticité, ouais, ça monte un peu. L'humour, on n'en a pas besoin apparemment. Peut-être qu'il y en a qui auraient dû dire oui, par la foi, je vais être... Et le romantisme en même temps que l'humour, bon... Les dates vont être super drôles et magnifiquement romantiques, mais au moins vous serez en confiance. C'est bien ça. Ok.
Il faut au moins, commencer c'est... quelque part.
Exactement.
Hein.
Ok.
Avant de se marier, quatrième question, combien de temps devraient durer les fréquentations? Entre 1 à 6 mois, 1 an à 3 ans, 3 ans à 5 ans, 5 ans à 10 ans? Ouh, Dieu nous le dira.
Mm-hmm. Wow, Dieu nous le dira, il y a quand même beaucoup de monde en ce moment. 1 à 3 ans quand même. Yeah. Il y a quand même du monde à 5 à 10 ans. 3 à 5 ans également. OK. 1 à 3 ans est quand même celui qui remporte la palme. En fait, on pourrait dire, Dieu nous le dira oui, mais il y a quand même des modes de sagesse. Si vous avez 16 ans comme nous en se connaissant, on encourage les ados et les parents diront amen à avoir au moins un bon... 3 à 5 ans facile de fréquentation, là. 3 vraiment pour les plus rapides, mais en tout cas, 5 ans pour nous. Après, 10 ans, ça peut être un peu long quand même, des fréquentations, surtout si on veut essayer de respecter
le temps,
les barrières.
C'est le temps.
On dit ça comme ça. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a des soins pastoraux, on a des conseillers, des pasteurs ici, et puis chaque couple a des routes différentes, mais venez chercher conseil, on sera vraiment ravis de vous conseiller. Dernière question, chérie.
Quel est le pays où il y a le plus de couples en union libre? Est-ce les États-Unis, la France, le Canada ou encore l'Italie?
Mm-hmm. Mm-hmm, OK, il y a du monde qui est confiant, qui est chauvin. C'est le Canada. OK. La France, ouais. Il y en a qui diraient, mais pourquoi le Brésil n'est pas dessus? Mais en tout cas,
vous avez raison,
c'est le Canada qui a le plus haut taux d'union libre. Et en fait, le Canada est premier en grande partie... Grâce au Québec, qui est la région de loin dans tous les pays du G7 où il y a le plus d'union libre, donc union libre, les personnes non mariées qui vivent ensemble. En fait, selon Statistique Canada, il y avait au Québec un couple sur deux qui vivait en union libre en 2021. C'est 2,5 fois plus que dans le reste du Canada. Alors, c'est pour ça qu'on croit important d'exposer quel est le mariage, parce que trop souvent dans notre société, les gens voient le mariage comme une mauvaise nouvelle, alors qu'en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que même à l'Église, on croit que le mariage est l'institution de Dieu et c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. Alors, on va l'adresser aujourd'hui parce que c'est une bonne nouvelle.
Le mariage est une bonne nouvelle et malheureusement, on le constate un petit peu tous. Aujourd'hui, dans notre société, les relations sont de plus en plus éphémères ou de courte durée. Mais pourtant, Dieu, lui, il a la plus belle des visions. Il a une vision à long terme du mariage. Il veut qu'on ait une relation saine au sein de notre couple. Et alors que, elle, la société, on ne va pas se le cacher, mais surtout l'emphase sur comment tomber en amour, comment rencontrer quelqu'un. La Bible, elle, nous apprend à marcher dans l'amour. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Puis ce matin, vous savez, Chacun pourrait avoir sa propre définition du couple, du mariage. On a tous un petit peu une vision différente, tellement on est nombreux. Mais on croit qu'il est important de revenir à la base, la parole de Dieu. Mm-hmm. Qu'est-ce que la parole de Dieu ? Qu'est-ce que la Bible dit du mariage ? Et à la première réunion, après le message, il y a plusieurs couples qui étaient là. Puis ça fait des années, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. Puis ils disaient eux aussi, ça fait du bien d'avoir un refresh de quelle est la vision de Dieu pour notre mariage. Et le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est le mariage et l'idée de Dieu.
Mmh. C'est l'idée de Dieu et c'est lui qui a créé le mariage. Et ce n'est pas une institution juste juridique ou quelque chose avec une belle robe, une bague, une signature quelque part avec deux témoins. Non, c'est quelque chose de bien plus grand que ça. Quand on regarde la Bible, du premier livre jusqu'au dernier livre, ça commence et ça se termine par un mariage. Il y a vraiment quelque chose de fort où dans l'idée de Dieu, la création du mariage était entre un homme et une femme pour un engagement vraiment au long terme. Et il a mis le mariage pour être le cadre le plus sain et le plus sécuritaire pour que nous puissions vivre épanouis dans notre couple, pour pouvoir fonder une famille et structurer. Et puis, trop souvent, les gens le voient comme un cadre, alors qu'en fait, c'est une protection. Le mariage est le cadre le plus sécuritaire pour le couple et la famille. Dès les premières pages de la Bible, dès le deuxième chapitre dans le livre de la Genèse, Dieu explique quel est le mariage. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. C'est un petit verset, mais qui renferme beaucoup de vérité. C'est en fait deux chemins différents qui viennent de deux structures familiales différentes qui, par le mariage, abandonnent leur structure et commencent un nouveau chemin ensemble. C'est deux personnes qui, au final, n'en forment qu'une.
Et en fait, chacun arrive dans la relation de couple, dans le mariage, avec son bagage. On va vous l'illustrer un petit peu ce matin. Je vous rassure, on part pas dans le sud, en tout cas pas encore, même si il commence à faire beau au Québec, donc ça fait du bien. Parfait. Mais chacun arrive avec son bagage. Regarde, moi, je pense que...
Ouais, il est plus gros, c'est pour toi, exactement.
Je l'assume.
On commence.
Mais en fait, chacun arrive dans le mariage avec son bagage et bien souvent, on aimerait que l'autre, si je peux dire comme ça, embarque dans notre chemin, ok, se joigne à notre voyage. Et en fait, chacun a un bagage différent. Pourquoi ? Parce que dans notre bagage, ça contient notre histoire de vie, notre background, notre passé, parfois une éducation aussi qui a été complètement différente. Puis c'est aussi des cultures qui peuvent être différentes, mais qui se mettent ensemble. Donc nos bagages sont vraiment à prendre en considération pour la destination qu'on va prendre ensemble.
Exactement, et ils sont plus ou moins lourds par rapport au passé qu'on a. Mais le mariage, c'est de faire un bagage à deux. Et vous voyez, il est beaucoup plus petit parce qu'on commence à voyager léger. On laisse tout ce qui pèse, des fois, des mauvaises habitudes, des blessures, des choses, pour pouvoir commencer. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va devoir ? Et c'est pour ça que les fréquentations sont très, très importantes. Quelles sont les discussions, les relations pour savoir qu'est-ce qu'on prend dans la valise et qu'est-ce qu'on laisse dedans ? Moi, j'aimerais tout prendre de ma valise, mais il va falloir faire des concessions, ok ? On n'aime pas faire des concessions, mais imaginez, on vous donne des illustrations simples que vous allez peut-être vous retrouver, d'accord ? Moi, par exemple, ça fait 25 ans que j'habite seul, que je suis tout seul. J'ai pris pour habitude de vraiment faire en sorte que la nourriture, c'est simple, c'est efficace. Je vais à Costco, je prends des surgelés, 2 minutes au micro-ondes et c'est parfait pour moi. Je prends pas tant de temps à faire la cuisine parce qu'en fait, je veux pouvoir discuter le plus possible, prendre du temps de qualité. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on comprennent ma manière de faire la nourriture pour aller dans notre mariage.
Et heureusement que la communication est importante dans un couple. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que je respecte la manière dont tu as vécu, mais les plats surgelés à chaque jour, je ne pense pas que ce soit très bon pour notre santé. Donc, je me propose et je m'engage à cuisiner pour toi et pour nous pour manger bien santé.
C'est parfait. Je suis très d'accord de laisser mon bagage en arrière. Et de prendre son habitude de faire les repas pour ça, tout le monde est gagnant.
Parfait. Si je te partage un petit peu, moi, j'avais l'habitude, étant jeune adulte, de magasiner à chaque semaine. J'étais aux études, je travaillais en même temps, j'avais une rentrée d'argent et j'aimais beaucoup ça, magasiner à chaque semaine. Chaque samedi, c'était ma journée où j'allais magasiner, m'acheter du linge. Donc, je pense que ça, est-ce qu'on pourrait garder cette liberté-là un petit peu libre, comme ça?
Liberté, j'aime ça. Liberté, budget, feeling, budget, ça va pas ensemble vraiment. Moi, je suis comptable agréé depuis des années. J'ai des tableaux Excel partout, exactement bien faits. Et j'ai même prévu qu'il y avait un budget magasinage pour toi. Donc, tu pourrais être autant libre que tu respectes le budget. Oh, wow. Est-ce que c'est bon pour toi?
Si tu m'attribues un budget.
On prend mon Excel et on le met dans le bagage et tu laisses tes feelings dans le tien, ok? on prend cette liberté-là.
Si on parle un peu de nos vacances.
Eh, hey, super.
Les vacances. On en parle beaucoup ce matin. Ça s'en vient. Mais moi, j'ai grandi, je viens d'une famille portugaise. Est-ce qu'il y a des Portugais, des Brésiliens dans la salle? Si vous êtes là, ok, la famille est là. Yeah. Moi, je suis habituée à partir en vacances avec toute la famille, mes parents, ma sœur, mes oncles, mes tantes. Donc, je pensais que...
On rit pareil. Voilà.
Non, mais les Brésiliens me comprennent en ce moment. Je pensais qu'à nos vacances, on vit quand même tout au long de l'année où on est juste à deux. Que penses-tu si pour un 2-3 semaines d'été...
Je croyais 2-3 jours, 2-3 semaines, ok.
On partait avec nos familles.
Parfait. Moi, je travaille tellement avec beaucoup de monde toute l'année que dans nos vacances, c'est vraiment nous tout seuls, avec la plage.
Ok.
Donc, ça ne marchera pas pour les vacances.
Mais j'aime la plage, par exemple.
Oui, la plage.
Mais qu'est-ce que tu penses si on faisait un compromis?
Laquelle?
On part, trois fois sur quatre à deux, mais une fois sur quatre, on fait un voyage familial.
J'aime ça, c'est bon ça.
Compromis?
Okay. Faisons ça.
Parfait.
Ok.
Super.
On peut applaudir tous les couples qui devront faire des compromis. Et le but est vraiment que tu repartes avec ton bagage que tu laisses en arrière et tu repartes avec le bagage de ton mariage qui soit beaucoup plus léger, mais avec toutes les bonnes choses. Et parfois, c'est drôle, mais il y a des couples qui sont mariés depuis 20 ans, mais qui ont pris tellement des choses de leur ancienne vie qu'en fait, ça pèse dans leur bagage. Il n'est jamais trop tard pour faire le vide et puis recommencer quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin, peu importe dans l'étape où tu te trouves.
Et si on revient à notre verset qui disait « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'un. » Si on regarde en fait au sens biblique, la parole de Dieu est remplie de vérité et veut nous apprendre aussi des choses, mais le terme hébreu de « s'attacher » signifie « s'accrocher, se coller ». Et c'est fort parce qu'en fait ça symbolise notre alliance, l'alliance entre l'homme et la femme, mais aussi l'engagement qu'on prend tous les deux devant Dieu, mais aussi notre union spirituelle qu'on prend ensemble, mais aussi avec Dieu. Parce qu'un couple, c'est deux personnes, c'est l'homme, la femme, mais on se marie devant Dieu et le couple reste notre fondement et notre fondation.
Exactement, on aime bien prendre l'image du triangle, il y a un triangle qui va apparaître en arrière, et c'est vraiment d'un côté l'homme, ensuite l'autre côté la femme, mais en haut, bien sûr, au centre, Dieu. Et c'est vraiment important que l'homme et la femme aillent eux-mêmes personnellement. En fait, au plus l'homme et la femme s'approchent de Dieu personnellement, au plus, en fait, ils s'approchent l'un de l'autre. Pour ne former qu'un, ultimement. Et c'est pour ça qu'on est tous en progrès, en marche, et on vous encourage à le faire. Peu importe le niveau où vous êtes en ce moment, continuez de marcher pour que Dieu soit au centre de vous, parce qu'au plus vous avancez vers Dieu personnellement, au plus vous vous retrouvez ensemble. Dieu est la fondation de l'alliance, et il est également la protection du couple et du mariage. En fait, c'est la solidité sur laquelle on bâtit. Dieu n'a pas juste dit « allez vous marier », il a dit « venez vous marier » pour qu'on puisse faire un solide fondement. Tantôt, on l'a chanté, Dieu est le rocher éternel, il ne faillit pas. Tout ce qu'on bâtit sur lui, avec lui comme fondation, ça tient et ça, et c'est solide. Peu importe les tempêtes, peu importe les vents et la pluie, il est le rocher sur lequel on bâtit. Et ça pourrait paraître fou, je me souviens, alors qu'on était à quelques mois de se marier, j'avais 20 ans, je parlais à mes collègues que j'allais me marier et tout ça, et puis eux me prenaient pour un fou. Pour eux, c'était comme, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu connais rien, tu te connais pas, tu connais pas elle. Te marier maintenant, c'est comme t'enfermer dans une prison, vis ta jeunesse, profite. Et puis pour eux, ça faisait aucun sens que je puisse commencer à construire un mariage alors que j'avais 20 ans. Mais moi, ça faisait déjà 4 ans que j'avais donné ma vie à Dieu. J'avais vraiment compris que les principes de Dieu valaient beaucoup mieux que les miens et mes feelings. Et alors que je me soumettais à sa parole, il y avait vraiment quelque chose où je me disais, je ne bâtis pas en fonction de la culture qui m'environne en disant, hey, profite de ta jeunesse, profite même de la sexualité, fais tout ce que tu veux. Non, j'avais compris que le principe de Dieu, même dans le cadre qu'il mettait, même si en ce moment il y avait un ordre à toute chose et qu'il y avait une chasteté, il y avait une pureté avant le mariage, tout faisait du sens parce que Dieu était la fondation. C'était pas les feelings ou la culture, c'était la fondation qui était Dieu et sa parole. Je leur disais toujours, trouves-tu qu'en ce moment, quand tu regardes autour de toi, tu trouves que l'amour, le couple, le mariage, les familles sont solides et vont de mieux en mieux? Puis tout le monde disait non. Alors je disais, c'est pour ça que je ne veux pas reproduire ça, je veux bâtir selon ce que le créateur du mariage, de l'amour, du couple, et qui est le protecteur de ce que je bâtis. Et si je bâtis sur lui, ça aura du sens. Ça ne va pas être parfait, il va falloir travailler, mais au moins ça sera solide. Est-ce qu'on peut encourager notre Dieu qui rend nos couples et nos mariages solides? J'aimerais dire ça, et chaque mot est important, hein, mais quand il est vécu comme Dieu l'a prévu, le mariage est le rêve que chacun veut pour son couple. Amour, fidélité, engagement, douceur, confiance. C'est pour ça qu'on encourage même les célibataires en ce moment qui disent « mais je suis seul en ce moment, mais j'aimerais aspirer à ça ». Bâtis avec Jésus comme fondation, d'abord sur ta vie, pour que ton couple ensuite soit solide.
Yes, c'est le mariage, en fait, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous donner. C'est une institution, en fait, qui a été créée par lui, comme on vient de le voir. C'est quelque chose de fort. Et en fait, on vous en parle aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est mariés bientôt, mais c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose pour lequel on se prépare, mais aussi dans le mariage, on l'a vu, on a dit Dieu au centre, mais l'importance de prendre en considération l'homme et la femme, les deux personnes au sein du couple. Et pour ceux qui sont mariés, vous le savez, mais dans le mariage, c'est important aussi de faire passer l'autre avant soi, et c'est notre deuxième point en fait. Toute relation va se bâtir entre deux personnes qui sont complètement différentes. Et je vous apprends rien si aujourd'hui, dans notre génération, notre culture, on est beaucoup centré sur nous-mêmes. C'est ma liberté, c'est mon épanouissement, mon bonheur personnel. Mais lorsque Dieu regarde en réalité au couple, lui, sa vision est complètement différente. Le mariage, ce n'est pas être centré sur toi-même, ce n'est pas être centré sur soi, mais c'est le don de soi. Et Dieu et Jésus est notre plus bel exemple. Et vous savez, ça ne veut pas dire que dans la relation, qui tu n'es pas important, bien au contraire. Mais lorsque tu te mets en couple ou que tu t'engages dans ton mariage, il faut que tu prennes en considération que ce n'est pas juste toi qui va recevoir, ça ne va pas être toi forcément tout le temps le centre d'attention. Et ça, il faut qu'on se le répète à chaque jour. Mais le mariage, c'est donner également. Et je vous l'ai dit, vivre l'évangile à l'intérieur du couple, c'est ça le don de soi. Jésus-Christ est le meilleur exemple, celui qui a donné sa vie pour nous à la croix d'un amour parfait. Est-ce qu'on le méritait? Non. Mais en fait, il est le meilleur modèle qu'on puisse vivre à chaque jour. Servir, faire des sacrifices, être dévoué, aimer, écouter. La Bible nous dit que Jésus lui-même n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir les autres. Et vous savez, plus on étudie la parole de Dieu, plus on peut découvrir qu'on est fait pour être des personnes qui appelées à être aimées, mais aussi à aimer l'autre. Et un des versets qu'on aime beaucoup, vous le connaissez certainement, qui parle spécifiquement de l'amour, c'est 1 Corinthiens 13, et le verset 4 dit ceci. « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, dites amen n'importe quand, parce que c'est bon de se le rappeler, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Si tu veux la véritable définition de l'amour en ce moment, approprie-toi ce verset. Tu peux même changer par l'amour, par « je suis patient, je supporte tout, je pardonne tout », avec un équilibre, bien sûr. Mais c'est l'exemple d'un amour parfait qui est contenu dans ce verset.
En fait, si on comprend que bien sûr, dans le mariage, je ne dois pas subir mon mariage. Le but, ce n'est pas de s'oublier. Le but, c'est de penser à l'autre. Et comme Dieu l'a pensé, c'est qu'au plus tu penses à l'autre, au plus, en fait, on monte un escalier. Au lieu de se tirer des arguments en disant « Non, c'est pour moi. Ah non, c'est moi. » En fait, c'est « Je te donne. » Mais la relation, c'est « Mais moi, je te donne aussi. Je te donne. » Et au lieu de se tirer vers le bas, on se pousse vers le haut. Comme Dieu l'a pensé, c'est qu'en fait, nos différences, en fait, nous rendent complémentaires. Et si on n'essaye pas de changer l'autre en disant « mais il faut que tu sois comme je veux », non, en fait, Dieu t'a créé comme tu es, et aussi belle que tu es, ben, autant il y a des défis dans chacun de nous, mais il faut qu'on se voit comme complémentaires, différents mais complémentaires. Accepter nos différences. Dans un mariage, il faut vraiment comprendre que je ne peux pas essayer tout le temps de changer l'autre. Mais il faut toujours que je sois avec Dieu en train de lui demander comment je peux moi également changer pour l'autre. Une des plus belles citations qu'on aime, c'est une citation de Tim Keller qui dit « Une des plus belles manifestations de l'amour, c'est la volonté de changer. »
Yes. Et vous avez aujourd'hui une des pensées les plus populaires, c'est que si ça fonctionne pas, en fait, c'est aussi simple, mais change de partenaire. Mm-hmm. Et en fait, on voit trop ça dans la vie, dans le quotidien, mais pourtant, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. J'écoutais encore une émission cette semaine où c'est une médecin, une spécialiste qui travaillait avec les couples, et elle disait, en fait, je vois de plus en plus de couples se séparer. Puis après, ils se remettent avec une autre personne, ils changent de partenaire. Puis au final, ils viennent me voir à nouveau, puis ils se disent, mais en fait, j'ai encore des nouveaux problèmes dans mon couple. Mm-hmm. Mais en fait, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que le couple ne sera jamais parfait. Mm-hmm. Peut-être un encouragement pour quelqu'un, peut-être en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile, mais ne cherche pas à fuir, mais cherche à bâtir, cherche à reconstruire. Et si Jésus est avec toi dans la barque, mm-hmm. crois-moi qu'il va être là pour te guider. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu pour ça? On a besoin d'être intentionnel dans notre couple. Construire une relation, c'est d'aller vers l'autre pour pouvoir avancer ensemble. Est-ce que c'est exigeant? Oui, mais pourquoi? Parce que je crois que c'est quelque chose qui a de plus beau et quelque chose qu'on doit protéger. Le mariage est important. Mm-hmm.
Et souvent, parfois on voit des couples, puis on suit des couples des fois en relation d'aide, et on voit qu'ils veulent avancer dans le même chemin, mais ils ne se comprennent pas. Et souvent, leurs arguments en disant, ben, quand on veut régler les choses, ils sont plus en train de se combattre en duel que d'essayer de danser en duo. Mm-hmm. Et même si vous n'avez pas le rythme aujourd'hui, essayez juste d'imaginer le côté où on réglerait nos problèmes en essayant de danser comme un duo au lieu d'essayer de combattre en duel. On n'est pas là pour essayer de gagner l'argument, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui dit, hein, lors d'un conflit, lorsque l'un des deux gagne, c'est le couple qui perd. Essaye pas de gagner l'argument, essaye de gagner le couple. Comment tu peux faire aujourd'hui? On a vu dans nos relations, ça fait 15 ans qu'on est mariés, et puis il y a eu des périodes où, au lieu de prendre soin de comment on allait aborder les choses, les sujets sensibles, au lieu de faire des soirées date, en fait, c'était des soirées règlement de compte. Où en fait, on arrivait avec les gants de boxe quasiment là, en disant ok, là,
c'est une image. Hein.
Ouais, c'est une image. Vous inquiétez. On n'a jamais eu de... Non. Mais il y a un côté où, quand on arrivait là, on a changé en disant, au lieu d'être des règlements de compte, on va appeler ça des soirées de développement, d'avancement. Alors, il faut faire attention à comment on parle. Souvent, Sophie, elle commençait ses arguments en disant, « Chérie, il faut que je te parle. » Et le « chérie » voulait tout dire. « OK, là, attention, assieds-toi bien. » Il y a des... Et puis, on a appris à comment parler. Il y a vraiment des choses où, des fois, on arrivait puis comme avec une mitraillette. « Voici ce que tu as mal fait. Voici tu. » Et là, il y avait un côté où l'autre se sentait complètement agressé. Et puis, lors d'une conférence de couple, on a entendu le principe du 5-5-5. C'est intéressant. Les cinq premières minutes, je parle et tu dois m'écouter. Tu n'as pas le droit de répondre à un argument en disant « Non, contre-proposition. » Non, tu écoute active et j'ai 5 minutes pour parler.
C'est long quand même, 5 minutes. Sans parler,
c'est ça. Mais parfois, pour un homme, parfois, pour s'exprimer, 5 minutes, ça peut être long aussi. Mais le 5 minutes est vraiment timé. 5 minutes, tu m'écoutes. J'essaye vraiment du mieux que je peux, avec des gants, essayer vraiment de pas blesser l'autre, mais d'exposer ce que je pense. Ensuite, les 5 minutes prochaines, moi, je me tais et je t'écoute. Tu peux répondre, tu peux donner tes arguments. Et les 5 dernières minutes, là, maintenant, on n'essaye plus d'essayer de gagner l'argument ou quoi. On essaye de se donner la main, de se prendre dans les bras et vraiment de bâtir quelque chose, de dire maintenant, là, on règle la chose. Maintenant, on la met en arrière. Et il faut être productif dans ces 15 minutes-là. Mais si vous le faites une fois par semaine, imaginez. Des fois, on voit des couples, ça fait des années qu'ils n'ont pas pris un temps de règlement de compte ou même de se serrer dans les bras juste à la fin. De réconciliation, merci, c'est le mot que je cherchais. Comme quoi, on est complémentaires. Mais c'est vraiment important de comprendre que dans le 5-5-5, c'est un des outils, mais c'est vraiment à prendre en compte. Et puis, il y a 3 piliers dans notre mariage qu'on peut résumer dans les 15 dernières années. C'est les 3 P. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est le pardon. Et la troisième, c'est la promesse. Et voici la prière, pourquoi? Parce que c'est essentiel. La prière est l'arme que tu peux utiliser pour combattre l'ennemi qui veut diviser ton couple. Et c'est pour ça que chaque jour, on se donne la mission de prier l'un pour l'autre, même si parfois on est en désaccord. On doit prier pour l'autre, on doit prier pour que Dieu la bénisse, le renouvelle, nous renouvelle. La prière est ton arme la plus secrète et la plus puissante pour ton couple aujourd'hui. Maintenant, c'est le pardon. Le pardon est très important. Un couple ne peut fonctionner au long terme s'il ne se pardonne pas souvent. Si tu cherches la personne parfaite, elle n'existe pas. Il faudra que tu apprennes, même si la personne, elle va te blesser, même si c'est inconscient. Alors, il faut que tu apprennes à pardonner. J'aime l'image de l'oasis dans le désert. Il y a une image qui va être là. Imaginez un oasis dans le désert. Le désert, c'est toute la vie autour de nous, le travail, les relations, tout ça. Des fois, c'est tellement difficile, c'est aride, c'est sec, il fait chaud. Mais ton mariage est l'oasis que tu dois protéger. Et lorsque tu rentres de ta journée de travail, tu dois retrouver ton oasis. Et l'oasis, c'est reposant, c'est rafraîchissant et c'est ressourçant. Mais si tu ne prends pas, si tu n'es pas intentionnel chaque jour à retirer les grains de sable qui s'accumulent, parce que tu ne peux pas empêcher les tempêtes de sable de venir, les tornades, les choses, il va falloir que chaque jour t'enlèves les grains de sable. Sinon, rapidement, ton oasis sera comme le désert. Il y aura plus de ressourcement, il y aura plus de repos, il y aura plus de rafraîchissement. Et tu vas quoi? Aller essayer d'en trouver quelque part d'autre. Mais si tu es intentionnel avec le pardon, avec la prière, tu pourras avoir un oasis qui sera rafraîchissant après 45 ans de mariage. On a eu des gens ce matin qui disaient « Tout ce que vous avez dit, c'est vrai parce que la parole de Dieu, ça fait 40 ans qu'on le met ensemble et on célèbre des mariages en vie parce que Dieu est dans notre oasis. » Et le troisième P, c'est la promesse. La promesse, c'est très important. Nous sommes mariés le 28 juin 2008, il y a 15 ans. Dans 17 jours, il y aura 15 ans. Et lorsqu'on s'est engagé, on a dit à Dieu, on s'engage devant toi et devant l'assemblée, devant la famille, les amis, les témoins. Et cette promesse-là, c'était pas une promesse faite à la légère. On s'est engagé dans le meilleur et dans le pire, dans la maladie, comme dans la santé, dans la pauvreté, comme dans la richesse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et quand on a un argument, quand on a quelque chose, on se rappelle de cette promesse. Parce que c'est la protection sous laquelle on n'essaye pas de dire, ouais, mais attention, si tu fais ça, moi, je vais. Non. On est dans la même barque. Qu'il y ait une tempête ou qu'il fasse beau, on est et on reste dans la même barque. C'est pour ça que c'est un engagement ensemble. Dieu envers nous, nous envers nous, nous envers Dieu. Mais c'est également le mariage qui réussit. C'est la responsabilité de chacun. C'est notre troisième point. Le fait d'être juste amoureux dans un mariage ne peut suffire à faire en sorte que ça prend, que ça dure longtemps. Il faut être intentionnel. C'est les quatre phases d'un mariage. Il y a quatre phases universelles dans la vie d'un couple, et je vais vous l'expliquer. On passe tous par des moments difficiles, et parfois on ne sait pas vraiment où on en est. Voici les quatre phases universelles. La première, c'est la phase de lune de miel. On la connaît tous. Tout va bien. Tout flotte, le courant est beau, on se laisse porter, on n'a rien à faire, tout va bien. L'autre est prêt à dépenser des fortunes pour nous, elle ne trouve aucun défaut, on idéalise tout ça. Il n'y a comme pas beaucoup besoin d'efforts dans les premières phases de la relation de couple. On idéalise le partenaire et on est vraiment prêt à tout pour l'autre et c'est pour ça qu'on est comme, waouh, si c'est comme ça notre vie, elle va être magnifique. Ça, c'est la première phase.
Ça en fait partie, puis ça fait partie des plus belles et c'est bien oui. Que le couple partent comme ça. Et si vous êtes dans cette phase-là en ce moment, enjoy, ok?
Yes, yes, yes.
Parce que la deuxième phase est la phase de confrontation. C'est celle où tu vas commencer à tomber de ton nuage, que les petits papillons dans le ventre, ils vont commencer à s'envoler, puis où les différences qui, au départ, t'attiraient, commencent à t'étirer. Mm-hmm. Puis on regardait notre message cette semaine, puis Pasteur Ben est un musicien. Ben est un musicien. Puis au début, là, il jouait beaucoup de piano, OK? Du piano, des chansons. Tu m'avais pas composé une...
Oui, pour un 14 février. Dans les premières... C'est quoi, 14 février? Saint-Valentin.
Saint-Valentin. Yeah. Et il avait pris pour acquis ou par habitude de jouer du piano ou de chanter des petites chansons. Mais au fur et à mesure des années de mariage, là, à un moment donné, la guitare et le piano...
Ah ouais.
Maintenant, on le sort en famille, donc ouais. Ça, c'est bien. Mais comme quoi...
Ce qui t'a tiré maintenant, étire.
L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue, okay, comme ça. On dit.
Je le saurais.
Mais ça marche toujours.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est la phase, une des phases, je pense, les plus difficiles. Mais en fait, nous, on savait pas qu'elle allait exister à un moment donné. Donc, on se posait tellement de questions. On se disait, est-ce que c'est normal qu'on vive ça en ce moment? Est-ce que c'est juste notre couple? Donc, c'est pour ça que si vous êtes en préparation vers le mariage ou que vous êtes au début de votre mariage, ne soyez pas surpris si vous passez par cette phase-là.
Oui, mais après la pluie vient le beau temps. Et si vous êtes solide et vous continuez à travailler ensemble, malgré les difficultés, vous allez passer à la troisième phase qu'on appelle la phase de stabilité. Après la phase de confrontation vient une phase de stabilité. C'est là où il y a une relation qui est équilibrée, où on crée un amour qui devient de plus en plus solide, où on a trouvé comment avancer ensemble dans le temps. On se connaît plus nous-mêmes, on connaît plus l'autre, on connaît le couple, on devient plus flexible pour avancer ensemble. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut commencer à entrevoir fonder une famille. Trop souvent, il y a un mensonge qu'il y a des couples qui fonctionnent pas vraiment ensemble et qui là disent, regarde, pour que ça aille mieux, on va commencer à bâtir une famille. Ce n'est pas un bon conseil. On le déconseille à des couples qui en ce moment vivent des phases de confrontation. Attendez de stabiliser cela. Et ensuite, et c'est pour ça qu'il y a peut-être besoin d'aide, il y a peut-être besoin, il y a des couples ici qui rencontrent d'autres en tant que mentorat, qui donnent des conseils. On veut être une église, non pas seulement qui prêche un message le dimanche, non, mais qui marche avec vous chaque semaine. Alors, mais il y a vraiment une phase où, dans la phase de stabilité, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, est-ce qu'on pourrait bâtir une famille et faire en sorte que notre amour se multiplie et vivre ensemble.
Et la dernière phase, c'est la phase de croissance. C'est là où ton couple, en plus d'être solide, tu permets à l'autre de grandir. On est plus fort ensemble, mais on est aussi plus fort individuellement. On se voit l'un et l'autre comme ensemble, comme une seule et même équipe. Et vous savez, au fur et à mesure de nos années de mariage, on peut vous le dire encore aujourd'hui, ça demande du travail, ça demande de l'intentionnalité. Mm-hmm. Et même comme on vient de le voir, même si l'amour évolue, c'est la responsabilité de chacun, de le préserver, de le garder, de le faire fleurir. Parce que croyez-moi qu'il y aura des saisons qui vont être plus challengeante que d'autres. Vous savez, il y en aura où tout ira bien, puis d'autres qui vont être un peu plus difficiles, qui vont être étirantes. Et parfois, c'est peut-être même pas le couple ensemble, mais des situations extérieures comme une perte d'emploi, la maladie aussi qui peut venir cogner à la porte. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être fort ensemble. Et je dirais qu'une des clés, c'est que parfois, les crises de vie, de les voir comme une façon de grandir, de pas rester à cette crise-là attachée. Mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut grandir au travers de ça? Mais j'aimerais vous encourager, vous dire ce matin que la seule priorité et la réponse à tous vos problèmes que vous avez peut-être en ce moment, il y a juste un nom et son nom, c'est Jésus. Lorsque tu t'approches de Jésus, en fait, tu t'approches du miracle. Et vous savez, le premier miracle que Jésus a fait dans les évangiles, c'était lors d'un mariage aux noces de Cana.
On voit dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, Jésus est invité à un mariage. Et dans ces mariages-là, au niveau culturel, c'était intéressant parce qu'ils duraient plusieurs jours. Et Jésus est invité comme l'un des invités à ce mariage-là. Les disciples de Jésus sont invités aussi. Et puis le texte nous dit que la mère de Jésus, Marie, est invitée également à ce mariage. Et alors que la fête bat son plein, ça durait plusieurs jours, c'était vraiment une fête de célébration. Dans ces mariages-là, dans le Moyen-Orient, il fallait vraiment qu'il y ait du vin en abondance. Il y avait vraiment besoin pour l'honneur, il y avait vraiment un symbole. Le vin représentait l'honneur. Au plus il y avait du vin en abondance, au plus il y avait, entre guillemets, un symbole de prospérité, un symbole de vie abondante. Et à ce moment-là, il y a un problème dans ce mariage. Et c'est la mère de Jésus qui va venir vers Jésus en lui expliquant: il y a un problème en ce moment parce que le mariage, il y a eu peut-être un problème logistique, on ne sait pas, mais il manque de vin. En ce moment, la fête bat son plein et il manque de vin. Le mariage va être soumis au déshonneur. C'était comme vraiment un gros problème. Imaginez aujourd'hui, là, en plein milieu du dance floor du mariage, le DJ a plus de musique, plus du tout. Là, il y a comme un côté où qu'est-ce qu'on fait? Ça casse le party un peu plus. À ce moment-là, la mère de Jésus vient vers Jésus et lui dit: il faut que tu fasses quelque chose. Ce mariage est au bord du déshonneur. Et alors que elle se tourne vers de Jésus, elle se tourne vers les disciples et elle dit aux disciples: peu importe ce que Jésus va vous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Peu importe si ça vous paraît fou ou pas, faites tout ce qu'il vous dira. Et à ce moment-là, Jésus va dire, il y avait des vases des jarres à cette époque-là, et c'était des jarres remplies d'eau. C'était des cuves énormes remplies d'eau qui servaient au niveau religieux, pour les Juifs. Donc, c'était vraiment autant au niveau religieux que culturel. C'était quelque chose qui était utilisé. Ces vases-là étaient pleins d'eau. Et voici ce que Jésus va dire. Jésus leur dit à ses disciples: remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent à ras-bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. À ce moment-là, les disciples prennent de l'eau qui est ici. Ils le remplirent à ras-bord, ils puisent de l'eau et ils vont le donner à l'organisateur. Et en chemin, sans doute, le miracle se passe que Jésus change l'eau en vin. Et lorsque l'organisateur goûte ce vin, il est complètement, vous lirez le texte à la maison, l'organisateur est complètement étonné en disant: mais quelle est cette qualité de vin? Normalement, culturellement, tu sers le bon vin en premier. Et une fois qu'on a bu, tu peux servir un petit peu la piquette. Mais à ce moment-là, Jésus, lui, change l'eau en vin et tout le monde reconnaît que ce vin-là est bien meilleur que tout ce qu'on nous a servi à ce moment-là. Jésus a fait le miracle pour ce couple.
Et vous savez ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire, c'est que la parole de Dieu ne cite même pas le nom des mariés, mais l'emphase est mise complètement sur Jésus, celui qui est capable de faire passer toute chose de l'insuffisance à l'abondance. Parce que Jésus, lui seul, peut faire le miracle et est capable d'accomplir quelque chose de meilleur encore dans ta vie et dans ton couple. Et Ben l'a dit, mais prenez le temps, si vous pouvez, à la maison cette semaine, lisez-le, Jean 2, mais il y a trois vérités qu'on peut sortir de cette histoire. La première, c'est invite toujours Jésus dans ton mariage. Invite que tu sois nouveau marié, que tu aies 15 ans, 20 ans, 40 ans de mariage, mais qu'il puisse être la fondation, la base de toute chose et celui qui t'unit avec ton conjoint, ta conjointe. Deuxièmement, va toujours vers lui quand quelque chose ne va pas, et je dirais même quand ça va bien. Vous savez, quand il y a quelque chose qui va pas, peut-être au sein du couple, de la famille, on a ce réflexe à vouloir chercher des solutions par nous-mêmes ou aller chercher de l'aide extérieure et ce qui est bon à faire. Mais que ton premier réflexe puisse être d'aller vers Jésus en premier, celui qui peut tout et qui est capable de tout. Et troisièmement, fais tout ce qu'il te dira. Tous les principes pour ton mariage, les commandements, la Bible est un manuel de vie qui est capable de t'accompagner à chaque jour dans ton mariage, dans les bons comme dans les moins bons jours. Mais fais tout ce qu'il te dira comme la parole de Dieu l'enseigne. Alors que le verset disait « remplissez à ras-bord ». Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous ? Aujourd'hui dans ton couple, donne ton meilleur, fais ton maximum. Puis peut-être t'écoutes ce matin ce message et puis tu te dis « mais moi c'est ce que je fais en ce moment dans ma vie de couple, mais j'ai l'impression que c'est compliqué ». Continue à donner ton meilleur et crois-moi que Dieu va faire le reste. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi en ce moment et qui est possible de faire des grandes choses. Et la dernière vérité aujourd'hui, vous savez, dans l'histoire, juste Marie est venue demander de l'aide. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? C'est que dans le couple, on est deux. Mais juste une personne qui va faire le pas d'aller réclamer de l'aide et demander un miracle de la part de Dieu, le miracle peut prendre place encore aujourd'hui dans ta vie. Mais fais le pas d'aller vers Jésus.
Et en terminant, vous savez, on nous voit sur le stage parfois et puis les gens à la blague disent « Non, mais vous, tout va bien et vous êtes comme... On vous voit être dans le ministère avec les enfants et parfois on idéalise la vie des autres. Mais vous savez, on est un couple comme tous les couples. On est passé par des saisons où on se souvient à un moment donné où c'était quasiment à deux doigts de passer dans le gouffre. Un jour, alors qu'on était dans les débuts de notre mariage et avant d'avoir les enfants, on se souvient d'une situation, il y avait une semaine où il y avait tellement de pression, tellement de difficultés, on n'arrivait même plus à communiquer, se parler, se comprendre. Et à ce moment-là, on s'est regardé, puis vraiment, on a dit, c'est la fin, là. Ça se termine. Il n'y a plus d'espoir. On a tout essayé, puis l'orgueil jouait beaucoup, peut-être plus de mon côté. Mais en tout cas, il y avait vraiment un côté où c'était noir. Puis on a comme quasi perdu espoir. Mais à ce moment-là, on s'est souvenu que si Jésus, lui, ne perd pas espoir en nous voyant, nous, on ne peut pas perdre espoir. Parce que si c'est lui la fondation, il faut revenir à lui, l'appeler. Et parfois, on peut se dire, on a tout fait, on a rempli à ras-bord, on a même mis pour que ça déborde. Mais tant que Jésus ne fait pas le miracle de changer l'eau en vin, il n'y a pas de miracle qu'il pouvait prendre. Et on a dû s'abandonner à l'autre, s'abandonner à Dieu en disant, Seigneur, viens à notre secours en ce moment. On a fait tout ce qui était possible, mais on n'y arrive plus. On est au bout de nos forces. Mais dans la prière, ce soir-là, on a prié ensemble, on a dit, Seigneur, on ne sait pas comment on pourrait sortir de là, mais on te confie juste. Et à ce moment-là, Dieu est vraiment venu changer notre couple. Et on a commencé à rebâtir, à avoir la foi, la confiance. On s'est fait aider également, on a eu des conseils de couple autour de nous. Mais on en est sorti parce que ce que tu donnes à Dieu, même si c'est des cendres, Dieu peut en faire quelque chose de miraculé parce qu'il change le mal en bien, il change la situation en bien. Et tout ce que tu lui confies, Dieu va en prendre soin. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui restaure, qui change? Avant de chanter, terminer par le chant, on aimerait prier l'un et l'autre. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Et puis, Sophie, veux-tu commencer à prier et puis je terminerai?
Seigneur Jésus, merci parce que tu es la bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Encore ce matin, ta parole nous montre que tu es amour, espoir et vérité, Seigneur Jésus. Merci parce que le mariage est une bonne nouvelle, Seigneur. Et ce matin, on veut encore se rappeler de cette vérité et pouvoir s'en réjouir et la célébrer, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui sont dans ton église en ce moment, Seigneur Jésus. tu les connais par leur nom, tu sais dans quel contexte ils sont arrivés ce matin dans ta maison, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, peut-être pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu es celui qui change l'eau en vin. Tu es celui qui amène l'abondance, même quand tout semble fini, terminé, Seigneur Jésus. Alors, je te prie vraiment pour les couples aujourd'hui, Seigneur. Je te prie vraiment de renouveler l'amour l'un envers l'autre, peut-être d'amener pardon là où il y a besoin d'avoir pardon, Seigneur Jésus. Mais que ton amour, Seigneur Jésus, soit celui qui nous permet d'avancer et celui qui nous fortifie encore aujourd'hui.
Seigneur, merci parce que ta parole est la bonne nouvelle. Et Seigneur, encore aujourd'hui, on vient déposer nos vies devant toi en disant, Seigneur, change, transforme-nous. Viens, Seigneur, soutenir celui qui est faible, viens confronter celui qui vit dans le mensonge. Seigneur, viens révéler ta parole comme tu l'as fait ce matin. Mais que chaque jour, Seigneur, on puisse venir à toi, premièrement, chacun. Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, je te prie en ce moment pour ceux qui sont seuls en ce moment et qui aspirent à trouver la bonne personne. Seigneur, qu'ils puissent ne pas s'attendre que l'autre les comblera, mais qu'ils puissent venir chercher ce qui les comble en toi. Seigneur, tu es celui qui donne la vie abondante. Seigneur, viens donner foi, viens donner courage, viens donner, Seigneur, douceur, maîtrise de soi. Viens, Seigneur, donner tout ce qu'on a besoin. Seigneur, on te prie pour que nous puissions venir à toi chaque jour en t'invitant dans nos vies, en faisant de toi l'invité prioritaire dans notre mariage, dans nos couples, dans nos vies. Et que tu fasses le miracle que toi seul sais faire. Seigneur, on s'attend à toi. On te dit, Seigneur, oh, viens aujourd'hui. On a besoin de toi maintenant dans nos vies. Que chacun, Seigneur, on puisse se tourner vers toi chaque jour et te déclarer le Sauveur et le Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu a fait ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble?